Parole d'auteur. Parole d'auteur, une émission de Anne Lasser.
Si toute vie est faite de rencontres, il en est qui ne peuvent s'oublier, des rencontres avec un livre notamment. Cela m'est arrivé plusieurs fois, mais quand en plus on a la chance de rencontrer l'auteur, le bonheur devient joie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je reçois dans les studios de Radio Présence Cécile Calan.
Bonjour à tous.
Cécile Calan, vous avez publié aux éditions Lucane un livre dont le titre, à mon avis, repose sur un jeu de mots, pris dans la toile. Car par-delà l'expression courante, la peinture est au cœur de l'enquête policière. Pour un coup d'essai, j'avoue que c'est un coup de maître. Mais nous allons d'abord parler de vous, Cécile. Vous résidez à Toulouse, mais je ne crois pas que cela soit votre ville natale.
C'est vrai. Vous êtes bien renseignée, Anne. Je suis née dans une petite ville du nord de la France, à 27 km de Lille. J'y ai passé toute mon enfance. Et puis après, les études et le travail faisant, j'ai déménagé plusieurs fois. Ça fait 15 ans que j'habite dans le sud-ouest et 2 ans à Toulouse, voilà, où je m'y sens très très bien.
C'est parfait. Et donc, nous sommes heureux de vous accueillir dans les studios de Radio Présence. Alors, c'est votre premier roman, Pris dans la toile. Comment en vient-on à écrire un premier roman tout en travaillant par ailleurs, Cécile ?
C'est vrai. Donc effectivement, j'ai une vie professionnelle bien remplie, comme beaucoup de personnes, du lundi au vendredi. Et puis, j'en suis venue à l'écriture vraiment par hasard, un dimanche. Je me souviens très particulièrement de l'instant, un dimanche après-midi où j'étais un petit peu désœuvrée, ce qui m'arrive rarement. J'avais mon mari et mon fils qui étaient en train de faire les devoirs d'école, dont j'étais exclue. je me souviens... avoir pris un cahier d'écolier et puis avoir rédigé quelques premières lignes. C'était typiquement un rêve éveillé du moment, comme on peut s'endormir avec une histoire en tête. Voilà, donc j'ai écrit les premières lignes comme ça sur un cahier. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai continué l'exercice. Alors ça tenait sur à peine 5 ou 6 pages. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai poursuivi l'histoire et ça m'a pris plus d'un an. Voilà. Et je suis arrivée au bout avec effectivement une fin dont il ne faut pas révéler. Mais voilà, c'était il y a 2 ou 3 ans en arrière et c'était par pur hasard en fait un moment de désœuvrement que j'ai comblé comme ça. Sans jamais avoir écrit avant.
Eh bien, heureusement qu'il y a des moments de désœuvrement oui, dans la vie de certains et dans votre vie, Cécile. Mais pourquoi le choix d'un roman policier ? C'est venu comme ça aussi, par hasard ?
Moi, j'ai toujours eu une admiration, c'est peut-être un grand mot, mais toujours un intérêt pour les enquêtes policières, pour la vie de policier aussi, qui est, je pense, très, très ingrate. Bon, et puis il y a tout l'imaginaire, les films policiers, les romans policiers qui m'ont bercé depuis l'enfance aussi. Et puis je pense que ça peut laisser une ouverture, un champ vraiment large de possibilités d'écriture et de développement d'histoire, d'intrigue, de choses trappes. Donc je pense que c'est un exercice qui est peut-être un peu plus facile, enfin certainement plus facile qu'un essai littéraire ou quelque chose d'un peu plus sérieux. Voilà. Au départ, encore une fois, c'était... pour m'occuper, donc j'avais envie que ce soit ludique. Et je pense que le roman policier, bon, moi, c'est pas du tout c'est pas du tout un roman noir, donc c'était quelque chose de ludique.
Oui. Alors, dès la première page, Cécile Calan, le lecteur est happé. Enfin, du moins, moi, je l'ai été. Par une atmosphère très particulière. C'est un début, une medias res, comme on dit dans le jargon littéraire. Autrement dit, le lecteur, dès la première page, dès la première phrase, est plongé dans l'action. Mais le personnage que l'on pressent comme essentiel n'est désigné que par le pronom « il ». Nous ne savons rien de lui et j'aimerais bien que les auditeurs entendent cette première page car elle est remarquable.
Je vous laisse lire, Anne, s'il vous plaît.
Alors, je lis, Cécile.
C'est pas un exercice que moi, particulièrement, j'affectionne.
Il avait dépassé l'aurore à la hauteur du péage de Buchelet. Il approchait à présent des abords de Caen, gastronomie tripière et plage du débarquement, joyeuse road trip. S'il acceptait sa proposition, il n'aurait pas le loisir de goûter aux spécialités locales pour touristes masochistes, raison de plus d'être persuasif. Depuis 5 ou 6 ans, il était devenu matinal par nécessité. La charge de travail, la perpétuelle course contre le temps ne lui laissaient pas le choix. Cela ne le dérangeait pas, au contraire. Sans cette pression, il aurait perdu en efficacité. Elle permettait d'avancer concentré sur l'essentiel. À 6 heures ce matin, il était sorti de Paris sans aucune difficulté de circulation. Pendant les derniers kilomètres, il se remémora une énième fois le dossier de sa cliente. L'objectif était aussi simple qu'incertain, la convaincre. Persuader une personne dont on ne connaît rien des motivations personnelles demande un peu d'imagination. Il essaya de se mettre dans la peau de cette femme de 28 ans, ce qu'il avait déjà fait pendant le trajet et durant ces 10 derniers jours, depuis que son potentiel avait été identifié. Il admit que cela ne servait à rien. Ne l'ayant jamais rencontré, il n'avait qu'une idée superficielle de sa personnalité, malgré les renseignements dont il disposait à son sujet. Il lui faudrait improviser, sans commettre d'erreur, un exercice périlleux qu'il appréhendait. Ce matin, la pression s'avérait plus forte que d'habitude, la réussite de son rendez-vous était décisive. Alors cette première page, effectivement, happe le lecteur. Et alors à la page 2, Cécile, surgit un autre
personnage.
Un autre personnage dont nous ne savons pas non plus, dont nous savons, pardon, le nom. Mais on n'en sait guère plus. Et son nom, c'est Vivarelli. Et si vous me permettez, je voudrais bien aussi lire un petit peu le début de cette deuxième page. De gros galets ovoïdes d'un blanc aveuglant que Neptune aurait patiemment posé là, un à un, comme une invitation à venir les fouler. Plus la perspective s'approchait du rivage, plus il devenait gris et minuscule. En arrière-plan, la falaise de craie, d'une palette similaire, grise et blanche, coiffée d'une chevelure de végétation, mordait les flots de sa dent pointue et de son incisive en forme d'arche. Avec 4 couleurs de pastel, Vivarelli avait ressuscité ses souvenirs d'Étretat. Elle ferma les yeux pour écouter le cri des mouettes rieuses. Depuis la veille, sa codétenue semblait combler son désœuvrement par une crise de méningite aiguë. Les dessins, les épitaphes et autres tags qui tapissaient leurs 4 murs étaient dans son collimateur. Dès son réveil, elle s'était mise à les récurer comme le fond d'une vieille casserole. Donc, voici le début de votre ouvrage pris dans la toile. Alors, sans livrer la fin, car nous le rappelons, il s'agit d'un roman policier, pouvez-vous nous résumer, Cécile, en quelques mots, cet ouvrage pris dans la toile, même si je sais que ce n'est pas évident de faire le résumé de son propre ouvrage.
Non, c'est tout à fait désagréable même. Je parle qu'on est.
C'est pour cela que vous êtes là.
Je pense qu'on est les moins bonnes personnes pour parler des ouvrages que l'on écrit. Donc en résumé, c'est un capitaine de police de la Mondaine, enfin ce qu'on appelait avant la Mondaine et qui s'appelle maintenant la Brigade de répression du proxénétisme, qui va exfiltrer donc une peintre faussaire de prison, donc vous avez parlé de Lorraine Vivarelli qui est en prison à Caen, pour ses qualités donc de faussaire. En fait, il y a un proxénète à démasquer et ce proxénète est passionné de peinture. Donc le capitaine de police avec son supérieur ont identifié une série de peintures qui avaient été saisies, donc des faux, qui avait été donc peint par Lorraine Vivarelli, et donc ils vont l'exfiltrer de prison pour qu'elle puisse animer une exposition de peinture où l'on suppose que le proxénète va se rendre. Voilà, donc ça c'est le démarrage, et puis ensuite elle sera prise. L'enquête n'est pas si simple que ça, ça ne va pas aboutir tout de suite, donc elle va devoir continuer à collaborer avec la police. Donc une détenue qui doit collaborer avec la police, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui ne va pas de soi, puisqu'elle est aussi donc en liberté conditionnelle. Voilà, y a un contrat qui est passé entre le capitaine de police et puis cette détenue. Mais elle va quand même goûter à une certaine forme de liberté et puis devoir collaborer avec la police. Ça va générer quelques péripéties. Voilà, donc, et ensuite, le fil conducteur, ça va être effectivement les peintures qu'elle va devoir peindre afin d'identifier ce criminel.
Oui, alors justement, Cécile, comment avez-vous pensé à faire de la peinture le fil conducteur? Alors, la peinture, bien sûr, en tant qu'art, hein, fait vraiment partie de l'enquête et presque un personnage à part entière.
Oui, je suis une grande consommatrice de romans policiers et malheureusement, je peux faire s'il y a un reproche à faire au genre, c'est qu'on n'apprend pas forcément grand-chose à l'issue de la lecture. On est plongé bien souvent dans un univers sombre, angoissant. Et moi, j'avais envie de mélanger un peu les genres. Alors, c'est vrai que personnellement, moi, j'ai un goût pour la peinture, alors que je ne peins absolument pas. Je n'ai pas de disposition particulière. Et puis, la vie a fait que je n'ai pas du tout essayé de creuser cet art-là, personnellement.
Pourtant, à vous lire, on a l'impression que vous êtes une...
Alors, par contre, j'aime regarder les tableaux et depuis toute petite, je me souviens particulièrement... mes parents, enfin ma mère a des origines italiennes, donc régulièrement, nous allions en Italie durant mon enfance. Et donc, j'ai été baignée par des pinacothèques, comme on dit là-bas, donc des musées, des beaux-arts. Et c'est vrai que toute petite, j'étais vraiment subjuguée par certains tableaux médiévaux où, avec les moyens de l'époque, les peintres arrivaient à restituer le toucher d'un velours, le détail d'une dentelle d'une robe ou l'éclat d'un grenat sur une bague. Et je me disais, mais ça doit représenter des heures de travail, c'est fabuleux le résultat, surtout à l'époque. Quand on est vers 1500 ans, c'est quand même, je pense, c'est très, très difficile. Et pourtant, on arrive à quelque chose de somptueux. Donc à partir de là, je me suis documentée, j'ai acheté des livres de peinture, alors un peu plus contemporains par la suite. Et puis j'ai visité, dès que je suis en vacances, s'il y a un musée des Beaux-Arts, je le visite. Voilà, donc chez moi, il y a effectivement, dans la bibliothèque, une partie des livres qui sont dédiés à la peinture.
Ah, voilà. Il est vrai que la peinture donne une tonalité, une couleur particulière à ce roman. Elle est omniprésente. Et j'étais persuadée, Cécile, que vous aviez fait des études d'histoire de l'art ou même suivi les cours des Beaux-Arts.
Alors, maintenant, Internet offre plein de possibilités. Ouais. Donc, encore une fois, si on tire sur le bout de la ficelle, on arrive à trouver quelque chose. Donc, sur Internet, vous trouvez les techniques de peinture. Et, alors, je me suis aidée, d'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, je cite quelques livres sur lesquels je me suis appuyée. Sur quelques peintres aussi, sur lesquels je me suis appuyée. Et donc, on arrive à trouver, effectivement, les techniques de peinture à l'huile, notamment. Puisque c'est plutôt cette technique que Vivarelli utilise.
Oui, alors c'est assez extraordinaire parce qu'on se passionne justement pour la peinture de Lorraine Vivarelli. Et j'aimerais bien là aussi lire certains passages. Par exemple, page 127, elle prépare la toile, il me semble. Assise sous le lampadaire du salon, elle griffonna plusieurs essais. La troisième esquisse eut sa préférence. Plus tard, elle plaça un imposant châssis sur le grand chevalet. D'un geste ample et méthodique, elle appliqua une couche fine et régulière de gesso, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, du gesso, oui.
De gesso sur la toile. Il apporterait la solidité et, par transparence, la luminosité aux différentes superpositions de couleurs. Sec dans quelques heures, elle le poncerait demain. Elle initiait sa première peinture à l'huile depuis 2 ans. Son but était à portée de main, et s'il n'y avait pas cette enquête, elle aurait été parfaitement heureuse d'être arrivée là où elle était. Happée par son projet, elle se coucha au milieu de la nuit. Il y a effectivement de nombreux passages. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, justement, sur la peinture, sur la façon de peindre. Parce que, par exemple, on lui demande de reproduire un tableau très rapidement et elle explique sa technique. Elle explique plutôt la technique utilisée par Lucien Freud.
Lucien Freud, le petit-fils d'Edmund Freud.
Ah, d'accord.
Oui. Oui, donc en fait, la peinture à l'huile nécessite des temps de séchage. Donc c'est incompatible avec ce que lui demande le capitaine de police. Donc elle va utiliser des subterfuges pour faire sécher plus rapidement la peinture à l'huile. Mais bon, c'est au détriment, bien sûr, de la qualité et par la suite de la tenue de la toile dans le temps. Donc voilà, il y a un débat, un petit débat comme ça, un petit clin d'œil sur la peinture dans les règles de l'art et puis, bien sûr, les besoins de l'enquête.
Voilà, c'est pour ça que j'étais persuadée que vous aviez fait les Beaux-Arts. Parce que, à propos également de ce même tableau, elle va expliquer au futur acheteur comment elle a procédé concernant l'ébauche du tableau qui lui a demandé de reproduire.
Oui.
Là, vous vous en souvenez, là, c'est dans les pages 179-180, où là, il y a aussi des passages très intéressants.
Oui.
Vous pouvez nous en parler ou c'est...
Je vous laisse relire peut-être. Oui, ben en fait, elle explique qu'elle modifie un peu la peinture, un peu les vernis pour accélérer justement le séchage et pouvoir présenter une ébauche qui doit voyager. Alors que normalement, on aurait dû laisser plusieurs semaines entre différentes couches et mettre un vernis de finition vraiment à la fin. Voilà, donc là, bien sûr, elle n'a pas pu. Donc elle explique que l'ébauche qu'elle présente n'a rien à voir avec le tableau définitif. Qu'elle va peindre pour c'est une commande, donc pour le futur acheteur.
Voilà, elle lui dit par exemple, « Avant de vous montrer le tableau, Monsieur Salvi, je vous dois une explication. La texture épaisse d'une peinture à l'huile comme celle-ci mettrait un an à sécher complètement. Par conséquent, pour vous remettre une ébauche dans un délai aussi court et permettre à Bernadine de supporter le voyage, j'ai eu recours à quelques artifices. » La copie sera réalisée dans les règles de l'art, cela va de soi. En revanche, cette ébauche présente trois caractéristiques impropres. La première, afin d'accélérer le séchage, j'ai dilué la peinture avec de la térébenthine plutôt qu'à l'huile de lin. La térébenthine assèche complètement la peinture, qui du coup vieillira mal. La seconde, le blanc d'argent en excès. J'ai eu moins de remords, car l'original en contient beaucoup. Ce pigment renforce la luminosité et l'effet de relief. Il accélère également le séchage et améliore la solidité des empattements. La dernière, l'utilisation d'un vernis temporaire. S'il présente des propriétés durcissantes, il a l'inconvénient d'être trop brillant. Voilà, mais vous êtes extraordinaire. On croirait que...
Je n'ai jamais touché un pinceau.
On a du mal à vous croire.
Oh, bah c'est... Il y a un an de travail aussi.
Alors, moi, Cécile, personnellement, j'ai vraiment été séduite par la force et la vérité des personnages. Il n'y a rien de caricatural en eux, contrairement au genre du roman policier. Ils sont profondément humains et malgré les nuages noirs soulevés par l'enquête, il y a comme une grâce en eux. Ils affrontent le monde comme ils peuvent, mais avec humanité toujours. Alors j'aimerais savoir comment on crée de tels personnages. Leur avez-vous donné des traits de caractère auxquels vous tenez? Se sont-ils imposés à vous? Là, c'est toujours particulier, la création des personnages pour un auteur.
Oui, c'est difficile. Alors, j'ai lu quelque part que le premier roman était surtout le reflet de son propre inconscient. Donc, c'est vrai que quand j'avais une scène avec Lorraine Vivarelli ou avec Marc Novak, en fait, je me disais, bon, moi à leur place, alors c'était toujours par rapport à moi, moi à leur place, je ferais ceci ou je dirais cela. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ma propre personnalité. Alors, chez une jeune femme et puis chez un homme un peu plus âgé d'une quarantaine d'années. Donc voilà, c'est un premier roman et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de ma propre personnalité. Et j'ai un ami lecteur qui, quand il a lu l'ouvrage, m'a dit « j'avais l'impression que tu étais à mes côtés ». Voilà. Donc, ils peuvent être probablement vrais parce que je pense qu'il y a une composante qui est intrinsèque à mon propre personnage et qui existe. Voilà. Donc, il a ma propre, entre guillemets, vérité.
Oui, c'est là une autre force de votre ouvrage. Il y a le fil conducteur de l'enquête, il y a la peinture en tant que véritable personnage, à mon avis. Mais c'est cette humanité des personnages qui m'a profondément intéressée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est véritablement pas dans la caricature.
Oui.
Et on est désespéré de les abandonner à la fin de l'ouvrage, tellement il y a de vérité dans les liens qui se créent entre les personnages.
Alors, J'évolue dans un monde assez... Bon, je suis commerciale, ça fait 30 ans que j'exerce ce métier, et j'ai eu beaucoup de pression autour de moi au fil de ma vie professionnelle. Beaucoup de pression de la part du management ou de la compétition de la part des confrères et consoeurs. Et moi, j'essayais de ne jamais lâcher, d'être toujours bienveillante. C'est difficile d'être toujours bienveillante quand autour de soi, c'est pas le cas. Et je pense qu'à 50 ans, on se dit, ben, ce qui vaut d'être l'âme humaine vaut, enfin, mérite d'être bienveillante, ouais, dans un océan de médiocrité parfois. Donc voilà, moi, le fil conducteur, c'était effectivement, je ne voulais pas d'un roman noir et je voulais mettre en avant une bienveillance. Alors qu'au départ, on a un policier et une détenue. Donc de temps en temps, il y a des frictions, évidemment. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont très bienveillants l'un envers l'autre. Et la quête est commune, c'est-à-dire libérer donc des enfants d'un réseau de pédoprostitution. Donc voilà, il y a une bienveillance qui est sous-jacente à chaque fois, même si, encore une fois, autour, c'est très malveillant.
Bien, je crois que nous allons faire une pause musicale, Cécile.
Très bien.
Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square des fleurs, poétise. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus. Les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles. De nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a pas besoin de protocole. Et tous les longs discours futiles terminerait quelque peu le style de nos retrouvailles. De nos retrouvailles.
Parole d'auteur, Anne Lasserre.
Cécile, donc après cette pause musicale que vous avez choisi de nous faire entendre, nous revenons à vos personnages. Parce que ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que les personnages ne sont pas dénués de passé dans votre roman, et ce passé influence leur comportement. Vous le montrez très habilement pour chacun des personnages essentiels, enfin les plus importants du livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Par exemple, nous parler un peu du passé de Lorraine, Vivarelli, ou de celui de Novak?
Oui. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un premier roman et donc ça fait appel à ses propres souvenirs. Alors, il se trouve que ma mère a été orpheline très tôt, donc à 1 an et demi. Elle était orpheline suite à un accident de voiture. Et voilà, c'est un peu le parallèle avec Lorraine Vivarelli qui se retrouve seule et qui tombe dans, voilà, dans le métier de faussaire, entre guillemets, pour subvenir à ses besoins financiers. Voilà. Donc, c'est un peu aussi pour faire écho à l'histoire personnelle. Alors, bien sûr, ma mère n'a pas été faussaire, mais elle s'en est sortie différemment, mais ça n'a pas été facile non plus. Voilà. Et donc, je pense que l'histoire, les traumatismes de l'enfance influencent forcément la vie d'adulte. Et quant à Marc Novak, il est d'origine polonaise, et c'est vrai que moi, étant jeune élève du nord de la France, on avait dans nos classes beaucoup de gens d'origine italienne, d'amis d'origine polonaise. Et c'est un peu un hommage à toutes ces personnes, enfin leurs parents, leurs grands-parents, qui sont venus dans le nord de la France pour le travail et qui se sont, par la force des choses, déracinés de leur propre pays.
Oui. Voilà. Alors, il y a le passé plus ou moins lointain qui influence le comportement des personnages, mais il y a un passé aussi plus récent. Par exemple, ça m'a beaucoup intéressé, les réactions de Novak par rapport à Lorraine Vivarelli. On sent qu'il est prêt à l'aimer, mais qu'il ne veut pas. Or, son comportement s'explique. Il lui est arrivé précédemment quelques malheurs sentimentaux.
Chat échaudé craint l'eau froide. Oui, donc Marc Novak a été quitté par son ex-compagne.
Qui est un personnage. Hein.
Qui est un personnage, alors... C'est délicat d'en parler parce que ce personnage fait partie de ma sphère familiale. Donc, bon, de toute manière, je suis déjà fâchée avec cette personne, donc peu importe, finalement.
Oui, mais alors vous faites comme Balzac et Zola, qui observent leurs contemporains, leur famille.
Mais la vie romanesque, oui, non, mais c'est un personnage haut en couleur qui...
Elle est déloyale, égocentrique.
Oui, alors à décharge, toujours. Cette personne a eu aussi une enfance qui était, je pense, douloureuse, puisque elle a un frère... Et donc, elle-même a été élevée par une grand-mère, tandis que son frère a été élevé par les parents. Donc, forcément, pourquoi elle est élevée par une grand-mère alors que le frère est à la maison familiale? Bon, on n'en a jamais discuté, elle et moi, mais en tout cas, à l'âge adulte, c'est devenu quelqu'un de très jaloux, mal dans sa peau, qui a eu des problèmes d'alimentation, etc. Donc, encore une fois, je pense que les souffrances de l'enfance, si elles ne sont pas traitées, et c'est valable aussi pour d'autres personnages du roman, ça va peut-être évoluer à l'âge adulte à des névroses qui, si elles ne sont pas traitées, vont empirer. Enfin, je pense que c'est l'expérience personnelle que j'en tire autour de moi. Et jusqu'à peut-être aller jusqu'à des extrémités pour le roman, voilà, qui soit plus sombre que une simple névrose qui empoisonne la vie de ses proches.
Oui, parce que finalement, même les différents suspects sont des personnages complexes dans votre roman, comme le chirurgien Salvi ou comme Valdès.
Oui.
Vous mettez là aussi en valeur l'importance de leur enfance.
Oui. Alors j'avais discuté au gré des salons littéraires avec un ancien policier qui me disait on ne connaît pas l'origine du mal, on ne la comprend pas. On sait qu'il y a à peu près 30% des gens de la population qui ont un petit ou gros problème psychologique, mais l'origine du mal, comment ça se fait qu'on passe à l'acte, que certains ne passent pas à l'acte. Et au bout de, je ne sais pas, 40 ans de carrière, il n'avait pas de réponse à ça. Il n'avait pas de réponse. Donc c'est un thème à explorer, voilà, l'origine du mal chez les criminels. Je pense qu'il y a des thèses qui sont dessus, mais bon, je pense qu'il y a probablement un psychiatre va toujours remonter à l'enfance.
Oui.
Alors je n'ai pas d'avis sur la question, hein, mais voilà, ça doit être déterminant, certainement.
En tout cas, c'est ce qui rend vos personnages encore plus humains. Et alors, il y a des personnages hauts en couleur. Alors là, ils m'ont beaucoup amusé, comme l'alter ego du capitaine Novak en Italie.
Oui, donc
je vous laisse prononcer le nom.
Ugo Verrucchi. Oui. Donc en fait, je voulais un personnage qui soit l'exact opposé de Marc Novak, qui est quelqu'un. Donc le français est taiseux, autant l'italien est volubile, autant le français s'habille de manière classique, autant l'italien s'habille de manière un peu plus frivole. Mais ce personnage, en fait, il m'a été inspiré lors d'un déplacement en Italie, un déplacement professionnel où j'ai eu l'occasion de prendre un taxi à l'aéroport de Milan. Et le taxi qui m'attendait, c'était un monsieur avec une très belle queue de cheval, un blouson andin avec des franges de 40 cm, des Santiago et un jean coupé façon haute couture. Et ce gars-là, je me suis dit, vous transposez cette personne. Bon, à l'époque, j'habitais Lille. Vous le transposez à Lille, bon, bah, tout le monde se retourne sur son passage. Mais là, en Italie, c'était beau, normal. Il avait une très belle classe. Et voilà, c'était... Pareil, un petit clin d'œil. J'avais pas besoin d'inventer un personnage, j'avais le souvenir qui me venait.
Voilà, alors il y a un autre personnage aussi qui est haut en couleur, c'est Maître Stéphanie Charbonnier. Et pourtant, là aussi, vous parvenez à ne pas tomber dans la caricature. C'est ce que je trouve extraordinaire chaque fois.
Alors, ce que je voulais, c'est que ce soit vraiment un chemin de croix pour Marc Novak. C'est-à-dire, il se coltine une détenue qu'il arrive plus ou moins à gérer. Il a cette enquête, cette pression, les parents des enfants, enfin une grosse pression. Et en plus, bien sûr, il va y avoir une avocate qui va essayer de faire libérer le principal suspect. Donc, c'est vraiment le chemin de croix. Donc, cette avocate, je la voulais... Alors, déjà, je voulais un second personnage féminin, puisque, visiblement, dans la littérature, c'est souvent des personnages masculins qui émaillent les romans. Donc, je voulais un second personnage féminin. Par contre, bon, elle n'est pas forcément sympathique.
Elle est assez particulière.
Oui, alors, oui.
Mais on ne peut pas l'oublier, justement.
Oui, voilà, on va dire une peau de vache, quoi. Oui, bon, quelqu'un qui a de la poigne. Bon, je pense que dans ces métiers-là, il faut aussi avoir du bagou.
Mais tout dans son attitude, son physique, enfin, elle est assez extraordinaire.
Je laisserai les lecteurs la découvrir. Alors.
Et alors, c'est un livre aussi qui nous fait voyager, Cécile, puisque les lieux sont différents. De temps en temps, nous sommes à Paris, puis l'enquête nous mène au Pays Basque ou nous mène en Toscane, à Florence. Alors, ce sont autant de lieux que vous semblez bien connaître.
Oui, je pense que c'est plus facile d'écrire sur des lieux que nous connaissons. Nous en ressentons un petit peu les ambiances. Donc, Paris, parce que la BRP était en face de la préfecture de police. J'ai mangé l'adresse, mais maintenant, ils ont déménagé au Batignolles, je crois, avec le 36 quai des Orfèvres. Mais en fait, je voulais un contraste là aussi avec Lorraine Vivarelli qui sort d'une petite cellule pléonasme, d'une cellule incarcérée dans une ville de province. J'ai rien contre Caen. Hein,
je ne connais pas.
Donc, elle sort donc d'une cellule d'une prison de province et elle est projetée le jour même de sa libération dans Paris. Donc, je voulais un contraste assez fort par rapport à ça. Donc, l'enquête, les premières pages se situent à Paris. Et puis après, pour les besoins de l'enquête, donc il y a cette exposition de peinture qui va se produire à Biarritz. Dans le casino qui fait aussi office de palais des congrès et qui est art déco. Et je trouvais que ça allait bien pour quelqu'un qui est sensible, très sensible à l'art comme Lorraine Vivarelli, de sortir de sa piteuses cellules oui. Et d'être projeté dans un lieu magnifique. Voilà, donc jouer un petit peu sur les contrastes. Alors, le casino, je l'ai visité probablement l'été précédent lors ouais. des vacances et j'ai trouvé cet endroit assez fabuleux. Et j'imaginais, je crois que c'est 1920, je crois, sa construction, enfin, dans ces années-là, j'imaginais les couples se former sur des chansons de Charleston. Voilà, donc emprunt de cette magie. Donc, il y avait Paris, Biarritz et puis la Toscane. Donc, oui. La Toscane où j'ai passé tous les 3 ans, un mois consécutif en vacances et que je connais très bien. Voilà, donc là aussi, avec les paysages qui sont faits oui. pour être peints et puis les demeures toscanes qui sont sublimes. Bon, je n'ai même pas parlé des musées qui sont extraordinaires. Voilà, Florence, évidemment, donc... Je pense que c'était des contrastes entre ce qui pouvait être laid et ce qui pouvait être oui. sublime.
Mmh. Oui, et justement, on ressent cet amour des paysages, de même qu'on ressent la bienveillance que vous avez vis-à-vis de vos personnages, même, peut-être pas les plus noirs, quoique vous expliquez quand même, en remontant leur passé, ce qui a pu faire qu'ils soient devenus ce qu'ils sont devenus.
Tout à fait, oui.
Parce qu'il y a quand même un réseau de pédophilie à détruire.
Oui, bien sûr.
Oui. Mais il n'y a rien de noir, comme vous le
dites. Non, il n'y a pas de scène explicite, c'est simplement suggéré. Je ne voulais absolument pas... Puisque je me suis plongée au départ, c'était vraiment un jeu pour un passe-temps. Après, c'est devenu un oui. hobby, une passion. Mais je ne voulais surtout pas me plonger dans quelque chose de noir, alors oui. que c'était pour justement éviter le stress de la vie professionnelle, enfin, me changer les idées. Donc voilà, c'était vraiment un moment qui devait être joyeux.
Oui. Alors, ce qui m'a aussi frappé, c'est que, enfin, personnellement, je pense que dans un roman, ce qui est difficile à écrire, ce sont les dialogues, pour ne pas qu'ils sonnent faux. Or, tous vos dialogues sonnent justes, ils sont extraordinaires, chaque fois que les paroles sont prononcées par des personnages, ils ne pouvaient prononcer que ces paroles, on a l'impression. La façon dont ils s'adressent les uns aux autres.
Alors, j'ai la chance d'avoir un mari avec qui je discute oui. calmement, mais parfois, on est un peu plus sur de la tension. Donc, j'avais un répondant masculin à côté de moi. Donc, c'est vrai qu'il pouvait y avoir des joutes verbales qui sont pleines de tendresse, mais oui. il y a quand même des petites piques qui sont disséminées par-ci, par-là. Après, pour avoir des dialogues qui sonnent justes, un écrivain va vous dire que le petit truc, c'est de les lire à voix haute. Et si ça ne sonne pas juste, il faut reprendre. Donc, il faut essayer d'épurer un petit peu. Le truc, c'est de les lire à voix haute. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que... Il faut changer.
Bon, c'est comme Flaubert qui avait son gueuloir, alors.
Ah bon
Et alors, justement, on peut se demander s'il y a le plaisir de la création, ça c'est certain, quand vous écrivez. Mais est-ce que vous, petit à petit, on se laisse prendre par les personnages, je suppose. Et alors, est-ce que vous n'avez pas cherché à mieux les comprendre, mieux les analyser leur comportement? Parce qu'on peut écrire par défi, mais on a l'impression que vous voulez nous dire quand même beaucoup plus.
Alors ça, je ne sais pas.
Oui.
Par contre, j'ai écrit un second texte où...
Je crois que nous allons avoir une petite pause. Cela va vous permettre de réfléchir, Cécile.
Spaventata
Parole d'auteur, Anne Lasserre.
Cécile, alors après cette pause musicale, revenons aux personnages. Ces personnages que vous analysez à travers des comportements tout à fait particuliers, en vient-on à les aimer et à mieux comprendre leur comportement ?
Alors les aimer, c'est sûr, puisqu'à la fin, j'avais du mal à clore le livre. J'aurais aimé poursuivre l'enquête avec eux et je n'avais pas envie de les laisser tomber. Voilà, c'était devenu des proches. Après, analyser, c'est peut-être difficile sur un premier roman d'analyser voilà, ce qu'on a produit. Par contre, depuis, j'ai écrit un autre texte et puis un second qui est accepté par un éditeur et puis un troisième en cours. Et là, ce qu'on peut repérer, c'est des thèmes récurrents. Donc je pense que les thèmes récurrents, chez un auteur, ça doit vouloir dire qu'il y a quelques obsessions qui n'étaient pas forcément révélées, mais qui l'écriture vous révèle à vous-même, finalement. Ah, voilà.
Voilà. En tout cas, moi, je trouve que les personnages sont si humains que j'ai pensé, en fermant votre livre, à deux vers du poète François Villon dans la ballade des pendus. « Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. » Alors, Cécile, oui, vous nous parlez d'un manuscrit, d'un second manuscrit qui va être édité, d'un troisième en préparation. Mais pour ce premier, pris dans la toile, comment avez-vous pensé aux éditions Lucane ? Comment s'est passé, en quelque sorte ?
Alors, au tout début, je pensais à rien du tout. puisque c'était encore une fois un exercice personnel, un jeu. Et puis, une fois l'intrigue terminée, je me suis dit, bon, effectivement, j'ai un texte qui a un début, un milieu, une fin. Je l'ai fait lire déjà à un ami qui est amateur de romans policiers, qui m'a dit, mais il est très bien, vas-y, fonce. Donc, bon, je n'avais rien à perdre. Donc, encore une fois, Internet m'a aidé à... Bon, n'étant pas du tout du domaine littéraire, hein, j'ai des études scientifiques et puis pas de connaissances d'écrivains dans ma sphère amicale. Donc, j'ai repéré sur Internet des éditeurs de romans policiers. Voilà, et puis maintenant, on peut envoyer son manuscrit par fichier PDF. Oui. Donc, ça a été très facile à envoyer à plusieurs éditeurs. Et puis, un mois et demi après, les éditions Lucane, donc avec Hélène Courtade, la directrice, m'a appelé. Et puis, on a discuté donc, de l'ouvrage. Et on est reparti sur... Donc là, il y avait un œil professionnel, critique, qui m'a permis évidemment de repérer des que moi je n'avais pas vu, mais donc Hélène a très bien repéré des longueurs, des scories, enfin des choses qui étaient inutiles. Elle m'a fait refaire la fin aussi qu'elle trouvait trop banale. Donc avec l'œil d'un un travail éditorial, avec l'œil d'un professionnel, je pense que le texte a gagné en nervosité et en originalité.
Voilà. En tout cas, il a dû lui plaire, parce que je crois qu'Hélène Courtade ne fonctionne qu'au coup de cœur, il semblerait. Me semble. Donc elle a été séduite très rapidement par l'ouvrage, apparemment.
Voilà, et puis c'est une maison d'édition qui est régionale, hein, puisque oui. C'est à côté de Pau, voilà. Oui. Lucane Édition, oui.
Bien. Et avez-vous donc un autre ouvrage terminé, mais peut-être ne dira-t-on rien. Je ne sais pas si vous avez envie d'en dire deux mots.
Ce sera l'année prochaine, en fait, qui sera normalement chez les libraires.
Chez les libraires. Ouais. Donc, on attendra l'année prochaine pour vous retrouver sur les ondes. J'aimerais bien que vous parliez un petit peu du jeu, J-E-U, des pronoms personnels. J'ai trouvé ça extraordinaire, puisque Lorraine et Marc Novak hésitent souvent entre le tu et le vous, surtout
oui,
Marc.
Oui, je trouve ça très, très romantique, en fait. Entre un homme et une femme, hésiter entre le tu et le vous, je trouve ça assez sexy, entre guillemets. Voilà, donc j'ai utilisé ce... Et puis bon, ça doit être sérieux, ils sont dans une enquête, donc normalement le « vous » serait de rigueur, et puis la proximité liée justement à l'enquête où on vit une épopée ensemble fait que les êtres se rapprochent et dans une équipe, on se tutoie. Donc voilà, il y avait ce jeu, et ils sont hésitants entre le « je » et le « vous ».
Voilà, et c'est ouais. Selon l'humeur et selon la façon aussi oui. Dont ils sont considérés ou se considèrent.
Oui.
Quand il veut en faire une codétenue et le lui rappeler.
C'est le vous, bien sûr. Bien sûr.
Voilà. Donc, et il ne l'appelle plus Lorraine, mais Vivarelli d'un ton sec. Donc, c'est pour ça, cette relation entre les personnages est toujours pleine de finesse. Et le lecteur se laisse prendre au jeu. Alors, en conclusion, Cécile, j'aimerais vous dire que j'ai aimé l'absence de tous les clichés qui sont liés plus ou moins au genre du roman policier. Vous avez une façon très personnelle de traiter un roman policier et c'est ce qui m'a plu. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de votre ouvrage « Pris dans la toile ». « Pris dans la toile », donc écrit par Cécile Calland, tient aussi du roman psychologique et social.
Très bien.
Ce n'est pas qu'un roman policier. Et la présence permanente au cœur du récit, des tableaux et de l'art pictural, donne une tonalité particulière à ce roman. Alors, personnellement, je ne peux que recommander aux auditeurs votre livre, Cécile Calland, et je pense que les lecteurs seront, eux aussi, pris dans la toile. Cécile, donc, je vous remercie d'être venue dans les studios de Radio Présence pour parler de votre premier ouvrage, un ouvrage particulièrement réussi.
Merci beaucoup, Anne. Merci de votre invitation.
C'est avec grand plaisir, Cécile.